Veuillez écouter, frères et sœurs, la lecture de la Bible, les quatre textes que nous avons choisis pour ce culte de la Réformation se veulent en relation avec la devise « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Tout d'abord, le psaume 8. Ô Éternel, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal d'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Éternel, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 4. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi seul, véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, ces versets 33 et 36 à 36, écrit par l'apôtre Paul. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée de l'Éternel, qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Et puis, dans la première épître à Timothée, au chapitre 1er, ce verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique 229, le cantique de Luther, la première, la deuxième et la quatrième strophe du cantique 229. Ô Éternel, depuis que tu nous cherches, tu viens à nous, tu viens vers nous, par les créations matérielles, les splendeurs, la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes, où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la vie familiale, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères aînés. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères, a transparu ton sourire qui demeure et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage où fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour les causes justes, brillent des rayons d'or, dans chaque regard d'enfant. Tu as mis ta promesse et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Dieu qui te fais homme pour être plus près de nous. Chers frères et sœurs, j'aimerais placer la prédication de ce matin qui sera consacrée à cette fameuse devise protestante « À Dieu seul la gloire, soli Deo gloria » sous l'égide de ces mots, extraits de la première épître à Timothée au chapitre 1 et au verset 14, « Au roi des siècles » Seul Dieu soit honneur et gloire. Calvin accompagnait souvent sa signature de ce soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire, et on retrouve ces trois mots dans les partitions de Jean-Sébastien Bach. C'est une tradition de célébrer le dernier dimanche d'octobre la fête de la Réformation en souvenir du 31 octobre 1517 où furent affichés à la porte de la chapelle du château de Wittenberg les 95 thèses de Luther sur les indulgences et contre elle. À Dieu seul, la gloire. Bien entendu, ces mots, nous le savons bien, s'opposent au culte marial. Je ne dis pas du tout à Marie. Au culte des saints. Et même à une vénération qui peut devenir une sorte d'adoration du pape. Dans un article d'Alexandra Humbert consacré à ses 95 thèses de Luther sur les indulgences et paru dans l'avant-dernier numéro de la revue Position luthérienne, Alexandra Humbert, s'attachant plus particulièrement à ce moment-là de son article, aux thèses 5, 20 et 52, déclare au sujet de Luther, « Le pape n'a donc pas de pouvoir extraordinaire, mais il est devant Dieu un fidèle comme les autres, sans pouvoir divin particulier. » Nous savons cela et nous le redisons depuis des siècles. Inutile d'y insister. Mais dans la ligne de ce monothéisme, à Dieu seul la gloire, j'aimerais, parce que cela me paraît beaucoup plus important, rappeler cette sorte de tremblement de terre culturel et de révolution sociale qu'a représenté au XVIe siècle et avec la Réforme une triple désacralisation. D'abord, dira-t-on, il n'y a plus d'espace sacré, de lieu sacré, de choses sacrées. Les églises ne sont pas des lieux sacrés, les autels ne sont pas sacrés, les cœurs des églises ne sont pas réservés comme lieux sacrés aux prêtres qui le sont eux aussi, la nef étant pour les profanes. D'ailleurs, quand cette église de l'oratoire a été donnée au culte protestant, la première chose qu'on a faite, c'est de supprimer en tant que tel le chœur et d'y asseoir des fidèles, et non pas de le réserver au seul prêtre. On pourrait peut-être s'interroger sur cette appellation très courante de lieu de culte. Elle est ambiguë. Tout lieu où le culte a lieu est un lieu de culte. On ferait peut-être mieux de parler des lieux du culte. Et puis, deuxièmement, il n'y a plus d'espace sacré, je l'ai dit, mais il n'y a plus de temps sacré. On supprime le calendrier des saints, et dans la réforme réformée, c'est-à-dire plus particulièrement calvinienne, on s'oppose à la pratique, et cela pendant des siècles, de l'année dite liturgique ou ecclésiastique, qui divise l'année en temps, en segments différents, le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de la Passion, le temps de Pâques, le temps de Pentecôte, parce que, en fonction de ces différents temps, on lisait les lectures bibliques. Et la Réforme, et Calvin plus particulièrement, estime qu'il y a là une manière de soumettre la Bible, donc la parole de Dieu, à l'Église et son calendrier, au lieu que ce soit l'inverse. D'où le fait d'ailleurs que très souvent ici, à l'oratoire, nous ne lions pas les lectures bibliques à cette année liturgique. Troisièmement, il n'y a plus de personne sacrée, un clergé sacré qui s'interpose entre Dieu et nous, entre Dieu et les hommes, un clergé privilégié, trait d'union entre Dieu et les hommes, trait d'union obligatoire. On affirme un sacerdoce universel, à savoir que nous sommes tous prêtres, qu'il n'y a aucun intermédiaire en Jésus-Christ entre Dieu et nous. Cela ne veut pas dire, si nous sommes tous prêtres, que nous sommes tous pasteurs. Il y a différentes fonctions dans l'Église, il y a différents ministères, celui du diacre, celui du conseiller presbytéral, celui du docteur de l'Église, celui du pasteur. Le pasteur préside normalement le culte et ses différents moments, y compris le temps des sacrements, pas du tout, parce qu'il a un pouvoir que les fidèles n'auraient pas. Ou pas non plus parce ce qu'il ferait serait valide, alors que si c'était un simple fidèle, ce ne le serait pas. Nous savons bien qu'il y a des paroisses qui n'ont pas de pasteur et qui confient aux fidèles la présidence du culte et l'administration des sacrements. Dans une image que je crois suggérée par Marianne Carbonnier-Burcard, elle dit « Est-ce parce que chacun de nous peut faire son pain chez lui qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de boulanger ? Est-ce parce que chacun de nous peut validement présider le culte et accomplir des tâches pastorales qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de pasteurs ? Alors, il n'y a plus d'espace et de choses sacrées, il n'y a plus de temps sacré, il n'y a plus de personnes sacrées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacré du tout dans notre monde. Alors, le sacré existe-t-il encore ? Oui, oui, dit le protestantisme unanime, mais il reflue intégralement en Dieu. Et c'est cela que signifie profondément, en fait, le soli deo gloria. Mais je n'aimerais pas que ce rappel de soli deo gloria soit compris par nous comme un commandement négatif, comme une interdiction négative, comme une sorte d'impératif. Et c'est là où j'aimerais relier ma prédication de ce matin avec celle de dimanche dernier du pasteur Vincent Hubach. Le soli deo gloria s'est voulu, comme tout le message protestant toujours, un message de libération. Face à nos soucis de gloire, de puissance, d'honneur, de mérite, ou face à nos angoisses, devant cet idéal inaccessible, impossible à réaliser que le christianisme place devant nous, idéal moral et spirituel, face à nos préoccupations qui nous recentrent toujours sur nous-mêmes et penser toujours à mon péché, c'est penser toujours à moi, être victime d'un égocentrisme exacerbé, oui, face à ces soucis, à ces angoisses, à ces préoccupations, nous connaissons une libération et nous disons à Dieu seul la gloire. Et nous comprenons que ce soli deo gloria correspond très exactement, les deux choses se recouvrent, à ce sola gratia, par la seule grâce de Dieu. J'aime lire, vous le savez, cette prière de confession des péchés que vous avez entendue tout à l'heure, et dans laquelle il est dit « Ô Éternel, je te demande de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. » Eh bien non. Ici, dans ce temple, dans nos cultes, dans les églises, nous ne demandons à personne de faire ses preuves. Cela, c'est la société qui l'exige. Et je me rappelle cette jeune femme assistant à un culte de l'oratoire où elle a entendu cette prière. Elle travaille à un poste élevé dans une entreprise qui me disait l'apaisement, le bonheur et la libération que ces mots-là de la prière avaient été pour elle. Maintenant, et ce sera la deuxième étape de cette prédication qui comportera trois moments, j'aimerais, par rapport à ce monothéisme, interpeller, interroger, revisiter brièvement, trop brièvement il est vrai, la doctrine de la Trinité. Je ne pense pas que la Trinité soit une manière dont Dieu se dit ou se révèle à nous. Je pense qu'il s'agit là d'une doctrine, souvent d'ailleurs très performante, humaine, et que c'est par conséquent une manière humaine de dire Dieu. Mais, et cela, quelles que soient les intentions d'une doctrine de la Trinité, bien comprise, n'est-elle pas trop souvent entendue, vécue, reçue comme une sorte de trithéisme? Nous croyons en trois dieux, on les appelle trois personnes, et on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et récemment, un responsable de la formation de fidèles à la prédication dans l'Église réformée de France m'écrivait qu'il avait été ahuri par une interpellation d'un musulman qui lui disait « Mais vous, chrétiens, vous n'êtes pas véritablement monothéisme. Vous n'êtes pas véritablement au service d'un seul Dieu à travers la doctrine de la Trinité. » Eh bien, je pense qu'il nous faut très sérieusement écouter les Juifs et les musulmans quand ils nous interpellent à ce sujet et quand, invoquant la Trinité et cette doctrine, ils estiment que nous écornons très gravement un strict monothéisme. Il faut savoir sauvegarder l'affirmation du Dieu unique, à Dieu seul, la gloire. Et les formules ternaires, je ne dis pas trinitaires, les formules ternaires, que l'on trouve dans la Bible à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est très connu, et dans plusieurs des épîtres de Paul, et pas nécessairement dans cet ordre, Père, Fils et Saint-Esprit, sont à des années-lumière des définitions de la Trinité telles qu'on va les fixer beaucoup plus tard, définitions très délicates, très compliquées, au 4e et au 5e siècle de notre ère, à travers les fameux conciles de Nicée et Constantinople et de Chalcédoine. Nicée, c'est pour cela que Théodore Monod aimait à dire « je suis prêt » Nicéen, c'est-à-dire qu'il recevait cette manière de dire Dieu avant les strictes formules de ses conciles et qu'il s'affirmait alors unitarien. Les unitariens veulent en effet, très réservés devant les doctrines de la Trinité, sauvegarder l'affirmation du Dieu unique, à Dieu seul la gloire. Alors assurément, les unitariens reconnaissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a là que des réalités bibliques. Mais ils y voient plutôt non pas trois personnes, mais trois manières, trois modes, et on parle du modalisme, de dire Dieu est le même Dieu. Trois manière d'exprimer l'action de Dieu. Le Père, c'est dire Dieu dans la création. Le Fils, de manière symbolique, c'est une manière de dire Dieu dans l'incarnation et dans l'histoire. Et l'Esprit, c'est une manière de dire Dieu en nous, c'est-à-dire à travers son inspiration. Création, incarnation, inspiration, ce sont là trois grandes vérités qui n'ont rien à voir avec un trithéisme ou avec une sorte de polythéisme larvé. À Dieu seul la gloire. Mais là encore, comme j'ai conclu ma première étape, Je voudrais que cette deuxième étape, conformément à tout message protestant, fasse entendre un message de libération. Compte tenu de ce pluralisme qui appartient à l'essence même du protestantisme, ne nous plaçons pas sous la tutelle des dogmes, des doctrines, compris comme une chape de plomb de certaines orthodoxies. Vous n'êtes pas vraiment trinitaire. Eh bien, n'ayez crainte. Cela ne signifie absolument pas que vous n'êtes pas chrétien ou que vous n'êtes pas chrétien en plénitude. Vous êtes partisan de la doctrine de la Trinité. Encore faudrait-il préciser laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Eh bien, acceptez qu'on puisse ne pas l'être. Théodore Monod, le professeur André Gounel, ou mon collègue, le pasteur Gilles Castelnau, qui sont adversaires de cette doctrine de la Trinité classique, qui se disent unitariens, ne seraient-ils pas chrétiens? Et chrétiens en plénitude? Ne soyons pas hantés par la peur des hérésies. C'est Nicolas Berdiaeff, dans son Éthique, qui écrit ceci: « Que Dieu nous préserve de cette obsession, l'idée de l'hérésie, qui joue hélas un trop grand rôle dans l'histoire du christianisme et dont il est si difficile de se libérer. » Et puis, et ce sera la troisième étape de cette prédication, « Certes, certes, solide et au gloria, à Dieu seul la gloire. Mais est-ce une raison parce que nous disons cela pour avoir l'image d'un Dieu qui écrase l'être humain? À Dieu seul la gloire, cela signifierait-il Dieu est tout et l'homme n'est rien? Ou pour que Dieu soit tout, il faut que l'homme ne soit rien? Dieu a-t-il véritablement besoin de notre écrasement pour être Dieu? On ne grandit jamais Dieu en rabaissant l'homme. Dieu n'est pas d'autant plus élevé que nous serions d'autant plus bas. Et j'ai déjà eu l'occasion de citer ici même ces mots d'un grand théologien du XIe et XIIe siècle, Anselme de Canterbury, qui écrit ceci: « Celui qui se méprise est aimé de Dieu. Celui qui se déplaît plaît à Dieu. » Eh bien, il me semble que rien n'est plus contraire à l'esprit de l'Évangile que de telles paroles. Hélas, toute une théologie chrétienne, et peut-être plus particulièrement protestante, avec Luther et Calvin, réduit l'homme devant Dieu au néant de sa condition mortelle et pécheresse. Non, en Jésus, il y a un humanisme chrétien, je dirais presque christique, possible. En Jésus, nous retrouvons pleinement la dignité humaine, elle est restaurée. Et si en Jésus, et c'est cela que signifie la divinité et l'humanité de Jésus, nous trouvons l'image de Dieu et de l'homme réconciliés, réunis, alors pourquoi faudrait-il les opposer? Peut-on alors glorifier Dieu sans du même coup glorifier aussi l'être humain? Vous avez entendu ce psaume 8 que je relisais tout à l'heure. Je vous en fais entendre encore les versets 4 à 6. Éternel, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, L'homme a-t-il tant d'importance que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal d'un dieu et tu le couronnes de gloire et d'honneur. Si vous comparez d'ailleurs les différentes traductions de psaume 8, vous verrez que très souvent, hélas, elles édulcorent ces versets. Solide et au gloria, à Dieu seul la gloire. Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors, n'écoutons pas ces théologiens qui, tout de suite, viendront nous dire tels que nous sommes, pauvres pécheurs, rampants, misérables, insignifiants, minables, nous traînant comme des larves sur cette terre et sans importance. Non. Dieu nous aime tels que nous sommes en lui, c'est-à-dire précisément aimer, c'est-à-dire restaurer dans notre dignité, c'est-à-dire partenaire, partageant sa gloire. Amen.